Et à mesure qu'on approche de cette fin d'année, ils sont de plus en plus présents, les absents, nos absents. Je pense à ce texte de Grand Corps Malade qui s'appelle « Nos absents » justement. Il dit « Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. On se rassure face à la souffrance qui nous serre le cou, en se disant que là où ils sont, ils ont sûrement moins mal que nous. Alors on marche, on rit, on chante, mais leur ombre demeure dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de notre bonheur. Nous, on a des projets, on dessine nos lendemains, on décide du chemin, on regarde l'avenir entre nos mains. Et au cœur de l'action, dans nos victoires ou nos enfers, on imagine de temps en temps que nos absents nous voient faire. C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles, nous supporte. C'est ce qu'on a aimé qui crée un vide presque infini, qui inspire des textes premier degré. Faut dire que la mort manque d'ironie. Chiche.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui compose avec l'absent. Écrivain, elle est aussi la veuve d'Alain Robbe-Grillet, immense écrivain du nouveau roman disparu il y a 10 ans. Elle est venue ce matin nous parler de littérature, d'un amour aussi qui a duré 50 ans en toute liberté, qui t'a fâché. C'est comme ça qu'on l'aime, c'est comme ça qu'on la connaît. Bonjour Catherine Robbe-Grillet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Comment on fait pour vivre avec l'absent?
Eh bien, il est constamment là, vous savez, pour moi. Dans la vie courante, pour les objets, j'habite dans la même maison, et puis il y a constamment des objets qui sont là, auxquels j'ai affaire. Par exemple, il avait une cave, il avait des vins. Eh bien, à chaque fois qu'on boit un verre de vin, on dit merci Alain, parce qu'il aimait les bons vins. Pour moi, il est là. Il est là et quelquefois je me dis, par exemple en voyant ce qui se passe en ce moment, oh là là, mon Dieu, ce serait dur pour lui. Il aurait été complètement, déprimé par le côté de présent de la vie qui devient complètement virtuel. Il était terriblement déprimé dès qu'il fallait utiliser une carte bancaire. Enfin, il aurait été complètement perdu.
Est-ce qu'il vous visite en rêve?
Bah bien sûr, oui.
Il vous parle?
Oui, il me parle. Mais d'ailleurs, très souvent, je dis à Beverley, mais écoute, oh là là, Alain, ça l'aurait intéressé, tiens, on devrait lui téléphoner. Je sais très bien que je ne peux pas lui téléphoner, je ne suis pas folle quand même. Mais c'est comme si, on fait comme s'il était constamment là.
Mais qu'est-ce qu'il vous dit?
Oh, ben, ça dépend, par exemple, dans le jardin, il faudrait replanter, là. Il y a un hêtre pourpre qui est tombé, il faudrait peut-être débiter en replanter un.
Dans quel nouveau chapitre de votre vie vous a fait basculer la disparition de votre mari, Catherine Robbe-Grillet?
Comment dire? Bon, maintenant, vous savez que j'habite avec une femme.
Beverley, que vous venez de citer.
Voilà, que je viens de citer. Et c'était quelqu'un qu'Alain aimait beaucoup. Il partageait le goût du Bordeaux et le goût de Shakespeare.
C'est très bien, ça.
Et si vous voulez, quand il s'est senti vieillir, il a bien pensé que c'est Beverley qui s'occuperait de moi après sa mort. Donc il y avait comme un passage qui s'est fait naturellement.
Savait-il que vous l'épouseriez, Beverley?
Ah ben non. Non, il ne savait pas que je l'épouserais. Oui, je suis une jeune mariée de 88 ans, ouais, quand même.
C'est ce qu'on aime chez vous. Aujourd'hui, quand vous pensez à demain, justement, vous pensez à quoi?
Ah, penser à demain. Alors là, pour moi, évidemment, étant donné mon âge, c'est un peu à court terme.
Vous êtes une jeunesse, Catherine.
Ou une jeunesse, ça va, vous êtes gentille, mais je me sens quand même pas tout à fait comme une jeunesse. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je sens que je suis vieille à la chose suivante. C'est que quand je lis un article parlant d'un avenir, parlant d'un projet, dans 2020 ou en 2021, je me dis, ah, je serais peut-être pas là. Et quand c'est 2030, je sais que je ne serais pas là. Si vous voulez, c'est ça, en lire et se dire, ah ben non, là, ça, c'est pas pour moi.
J'ai envie qu'on revienne sur votre histoire, sur votre trajectoire, Catherine Robbe-Grillet. Lorsque je vous ai demandé de réfléchir à un objet qui symbolisait votre union avec Alain Robbe-Grillet, vous m'avez dit un train. Pourquoi le train?
Eh ben tout simplement parce qu'on s'est rencontrés dans un train.
Et que faisiez-vous
dans ce train?
La
première fois qu'il m'a vu, c'était sur le marchepied d'un train partant pour Istanbul. Et là, il s'est dit, ah, jolie proie pour un satyre, paraît-il, hein, c'est ce qu'il m'a rapporté après. Parce que j'avais à l'époque 21 ans, mais j'avais l'air d'en avoir 12.
Allons non.
Alors, comme il a toujours aimé les très jeunes femmes, ça, pour très, ne pas payer les adolescentes,
ouais.
Évidemment, c'était rêvé. Ouais. Bon.
Vous voulez dire que ça ne se produisait pas? C'était vraiment qu'un fantasme?
Bah, c'était son fantasme à lui.
Ouais.
Évidemment.
Ça vous a jamais posé problème?
À moi?
Ouais.
Mais pas du tout. J'ai toujours joué à la petite fille. Je trouvais ça merveilleux. À 30 ans, d'en avoir 12.
Vous avez conscience quand même, Catherine Robbe-Grillet, que ce discours-là, il est de plus en plus difficile
à
entendre.
Oh là 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 là.
Pour ne pas dire extrêmement problématique aujourd'hui.
Très problématique. Oui, oui. Alors, l'idée d'Alain, c'est que, on n'avait pas le droit de faire, évidemment, mais qu'on avait le droit de rêver. Il a écrit des textes assez scandaleux, quand même, effectivement. Mais de toute façon, non, j'en ai beaucoup joué, ça. J'ai beaucoup joué, même avant de connaître. Alors que j'avais plus de 20 ans, je me mettais en talons plats avec une jupe plissée et puis des nattes.
Comme un jeu de rôle, somme toute.
Mais oui, j'ai toujours joué ce rôle-là. Ça m'a toujours amusé, même avant de connaître Alain.
Est-ce que vous vous doutiez que vous passeriez 50 ans de votre vie avec lui?
Ah, évidemment, non. Non, non. Parce que, au départ, je n'avais pas cette idée qu'on a maintenant chez les jeunes couples que, bon, bah, on vit ensemble, on s'aime, mais ça dure 4 ans, ça dure 5 ans, ça dure 10 ans. Non. J'avais pas cette idée-là. On se mariait pour la vie. Ça, c'était l'époque, hein.
Vous voulez dire que la longévité, elle a aussi tenu à ça?
Bah, oui.
À l'époque?
Alors, bah oui, à l'époque, on se mariait pour la vie.
Ah, vous étiez très libre, vous.
Ah ben oui, mais ça c'est autre chose. Alain, c'était mon pivot. C'était un mari à l'ancienne qui me protégeait, qui était près de moi, mais qui me laissait faire ce que je voulais.
Qu'est-ce que ça voulait dire la liberté précisément dans un couple comme le vôtre ?
Ah mais la liberté dans ce cas-là, c'est ce que j'avais. Je n'avais pas la corde au cou, c'est-à-dire que je pouvais avoir des amants, je pouvais avoir des maîtresses, mais je lui racontais tout. C'est-à-dire il y avait une complicité totale entre lui et moi.
C'est dangereux ça.
Mais non, la preuve que non, puisque nous sommes restés ensemble 50 ans et 4 mois.
C'était voilà. Un peu le problème dans le couple Sartre-Beauvoir que vous avez commenté, alors, Catherine Robbe-Grillet.
Oui, je l'ai
la connu. Question de la liberté.
Oui, alors là, le couple Sartre-Beauvoir, qui avait fait un contrat de tout se raconter, quand on lit les écrits de Beauvoir, on voit que ça ne se passait pas si bien que ça.
Bah non.
Il y avait des drames de jalousie, il y avait des mensonges, ce qu'il n'y a jamais eu entre Alain et moi. Jamais. J'ai toujours été pour Alain à la fois la femme qu'on protège et les enfants. Il disait, Catherine, c'est ma femme et mes enfants. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, j'avais totale liberté. Je vous dis, j'avais des amants, j'avais des maîtresses.
Mais l'amour peut-il seulement être libre, Catherine Robbe-Grillet?
Mais chacun choisit comme il veut, quand même.
Certes.
Bah, évidemment. Moi, c'était comme ça. On a été heureux comme ça. Il y a des gens pour lesquels ça ne marche pas du tout. Mmh. Je sais que notre couple passait pour admirable. Et d'autres ont essayé de faire pareil, ça n'a pas marché.
Est-ce que vous trouvez qu'en matière de sexualité, de désir, de plaisir, on est suffisamment libre aujourd'hui?
Je ne sais pas, parce que je ne suis pas un jeune couple. Enfin
vous voyez, déjà vous êtes un jeune couple avec Beverley, vous nous l'avez dit, puis ensuite vous voyez.
Non, alors ce que je vois, j'ai l'impression quand même qu'il y a des jeunes couples qui vivent vraiment le jeune couple comme autrefois. On est fidèle, mais avec en arrière-plan quand même dans la pensée que il vaut peut-être mieux pas se marier parce que il vaut mieux se paxer parce que de toute façon ça durera pas éternellement.
En somme, dans quelle époque, de manière plus générale, est-ce que vous avez l'impression de vivre aujourd'hui?
Mais en 2018. Non, non, j'ai l'impression de vivre une époque difficile, disons. Beaucoup plus difficile que celle que j'ai vécue quand j'étais jeune. Parce que quand j'étais jeune, on croyait au progrès. On croyait que, par exemple, en France, ça allait de mieux en mieux et que, eh bien, le monde entier allait, peu à peu, arriver à notre stade de développement. On y croyait ferme à ça.
Qu'est-ce qui vous plaît quand même dans
et
la
puis
France
maintenant, on y croit plus, quoi.
De 2018.
Qu'est-ce qui me plaît? Bonne question. Je sais pas s'il me plaît. S'il y a beaucoup de choses qui me plaisent.
Une chose.
Eh bien, par exemple, la facilité de communiquer.
Très bien.
Ça, c'est très bien.
Qu'est-ce qui vous déplaît dans la France de 2018? Une chose.
La radicalisation.
Peut-être que vous voyez où je veux en venir, Catherine Robbe-Grillet, à ce petit jeu. Votre mari excellait. Je vous propose d'écouter une archive que vous avez choisie pour nous, l'extrait d'un entretien entre Alain Robbe-Grillet et Benoît Pétard. C'était en 2001.
J'aime la vie, je n'aime pas la mort. Pourtant, j'aime assez ce qui demeure immobile. J'aime les chats, je n'aime pas les chiens. J'aime l'impression d'éternité, les vieilles demeures de province au décor immuable, les lourds velours rouges passaient depuis toujours, la mousse dans les allées, les carpes entre deux eaux dans les bassins. Je n'aime pas le téléphone, je n'aime pas la voiture, j'aime les longs voyages en chemin de fer. Paris, Bucarest, New York, Los Angeles, Istanbul, Téhéran, Moscou, Khabarovsk. J'aime aussi marcher, dans les rues ou à travers la campagne. J'aime les automnes humides et doux, les feuilles brunes, luisantes de pluie, en épais tapis spongieux sur les chemins. Je n'aime pas le bruit, je n'aime pas l'agitation. J'aime les belles voix, je déteste les cris. J'aime les foules joyeuses, je n'aime pas ce qui plaît aux foules. Je ne fais pas confiance aux masses populaires. J'aime les jours où je me sens plus intelligent, plus instruit, plus aigu. J'aime apprendre, j'aime enseigner. Je n'aime pas faire une conférence après un bon repas. J'aime bien les petites filles, surtout si elles sont jolies. Je n'aime pas trop les petits garçons. J'aime le joli, je n'aime pas la mode du lait. J'aime dire ce que je pense, surtout si cela ne se dit pas. J'aime connaître la règle, je n'aime pas la respecter. J'aime connaître les théories, littéraires ou scientifiques. J'aime la liberté, je n'aime pas le gaspillage. Je n'aime pas la salade journalistique. J'aime mon papa et ma maman, je me méfie des psychanalystes. J'aime bien agacer les gens, mais j'aime pas qu'on m'emmerde.
J'aime pas qu'on m'emmerde. J'aime dire ce que je pense, surtout lorsque ça ne se dit pas à la robe grillée.
Tout à fait lui.
Vous êtes très ému.
Encore. Bah, il a une belle voix quand même.
Ouais.
Oui, c'est comme s'il était là. Mais Jésus, je trouve que c'est drôle, surtout.
J'aime dire ce que je pense, surtout lorsque ça ne se dit pas, ça vous fait rire?
Ah oui, oui, non, mais il était coutumier du fait. Quand on allait dans une réception, dans un cocktail, enfin quelque part, je me disais, oh, il faut pas qu'il dise ça, il faut pas qu'il dise ça à un tel ou à une telle, c'est pas... Eh bien, je le disais!
C'est un peu ce qu'on s'est dit en écoutant cette archive, Catherine.
Oui. Et alors, moi, j'étais sur des charbons ardents.
Mais qu'est-ce qu'il se disait pas, par exemple, et qu'il disait?
Oh, là, vous me prenez un peu...
J'aime bien les petites filles.
Ah ben non, ça, j'aime bien les petites filles, en plus. On avait le droit de dire « j'aime bien les petites filles ». Maintenant, je ne sais même pas si on a le droit de le dire, parce que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on aime les petites filles qu'on les viole tout de même. Mmh. Faut pas exagérer.
Vous ne lui avez jamais fait de reproche, vous, sur sa liberté de parole, sur sa liberté tout court?
Non. Alors, peut-être que quand il est rentré à l'Académie française et qu'il finalement... il n'a pas voulu faire son discours, être élu. Là, je lui ai fait un reproche.
C'est-à-dire qu'il rentrait dans l'institution, c'était bizarre.
Oui, oui. Mais alors, c'est très bizarre parce qu'il a été élu, mais il n'a pas voulu faire son discours.
En tout cas, cette façon de défier les règles, elle s'observe aussi sur le plan littéraire, sur le plan artistique. Entre nous, le nouveau roman, est-ce que c'était votre truc, à vous?
Alors, au début, évidemment, j'étais un petit peu désarçonnée, mais... Très vite, je m'y suis faite. Non, j'ai beaucoup aimé Le Voyeur, par exemple. Les Gommes, ce n'est pas un livre difficile, quand même. Et j'ai d'autant plus adhéré que je ne me sentais pas très bien dans l'univers balzacien. C'est drôle. J'étais assez... j'ai fait des études normales, des études supérieures. Et quand je lisais Balzac, je me disais, eh ben moi, je vis pas comme ça.
Alors, soudain, qu'est-ce que le nouveau roman venait bousculer, Catherine Robe-Grillet?
Ben justement, les psychologies balzaciennes. Et Alain avait l'impression qu'il y avait un homme nouveau qui était en train de naître. Bah, évidemment, il n'aime pas la psychanalyse, mais il en tient compte quand même. Et que le monde de Balzac ne correspondait plus du tout à ce qu'on était maintenant, ici et maintenant.
Une idée du personnage, en fait.
Ben voilà. Ça correspondait plus à sa sensibilité, à la sensibilité qu'il croyait être la sensibilité contemporaine.
Entre nous, quel rapport est-ce que vous entretenez avec les règles, vous?
Oh! Ah, bonne question, évidemment. Bah écoutez, moi, je traverse dans les clous. mais en revanche, j'ai quand même pas eu une vie... Je vous ai déjà dit que j'avais quand même une vie sexuelle un peu particulière. Il y a toute une partie de moi qui est Jeanne de Bergue. Hein.
Alors c'est ça, c'est votre mari, Catherine Robe-Grillet, qui vous a initié au sadomasochisme, dont vous avez beaucoup parlé d'un point de vue littéraire et langagier. Oui. C'est absolument passionnant, notamment dans l'image, sous le pseudonyme de
Jeanne de Bergue.
Jeanne de Bergue. Vous êtes connue aujourd'hui en tant que grande maîtresse de cérémonie SM. Comment s'est déroulée cette initiation? Vous vous souvenez?
Bah, c'est-à-dire que Alain très vite a fait allusion à ça, et ça m'a intéressée. J'étais un terrain propice, si vous voulez.
Qu'est-ce qui vous intéressait ?
Cette relation-là, être soumise, ça m'intéressait. Je l'ai tout de suite accepté. Bon, évidemment, c'était dans une relation où, si j'avais refusé quelque chose de façon violente, il était évident qu'il ne l'aurait pas faite.
Comme dans toute relation sadomasochiste qui se respecte.
Exactement.
Et de fouet marital, l'objet que vous avez également choisi en préparant cette émission pour incarner votre relation avec votre mari, que j'ai choisi de mettre en deuxième partie de cette émission pour des raisons de jeudi matin, Catherine. Oui. Quand est-ce qu'il est apparu, ce fouet marital?
C'est moi qui l'ai acheté, qui lui ai offert.
Allons donc.
Oui. Je l'ai toujours, d'ailleurs, il est à la campagne. Et à chaque fois que je le vois, justement, vous me demandez, quand je pense à Alain, ben justement, quand je vois le fouet marital, j'y pense.
Comment vous en êtes venue à passer du rôle de soumise à celui de dominante? Comment ce glissement s'est-il opéré?
Alors, c'est quelque chose qui s'est fait peu à peu. J'ai eu un amant qui était plutôt dominateur. Et j'avais un rôle soumis avec lui. Et puis, il aimait changer de rôle. De temps en temps, il me demandait, à moi, de jouer la femme dominatrice par rapport à lui. Et puis, je me suis aperçue que ça m'intéressait tout à fait, que j'y prenais plaisir. Et c'est à ce moment-là que j'ai peu à peu basculé dans le rôle de femme dominatrice.
On en revient au jeu de rôle. Le mot, d'ailleurs, vous l'employez à plusieurs reprises depuis le début de cette émission, le rôle. D'ailleurs, vous n'êtes pas Catherine Robe-Grillet lors de ces cérémonies, si ?
Non. Lors de ces cérémonies, je m'appelle Jeanne de Berg.
Et non pas Jean de Berg ?
Non, ça, j'ai abandonné, parce que après j'ai publié un livre qui s'appelait « Cérémonie de femme ».
Bien sûr.
Et il était évident que ce que je racontais, c'était une femme qui l'avait vécu. C'était des témoignages. Et à ce moment-là, j'ai laissé tomber Jean pour devenir Jeanne.
Qu'est-ce qui différencie une mise en scène sexuelle d'une mise en scène de théâtre ? Vous qui êtes également comédienne, Catherine Robe-Grillet.
Bah, tel que je le vois, la mise en scène de théâtre, on met en scène le théâtre, puis on le joue une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Moi, ce que j'ai organisé, ça ne se jouait jamais qu'une fois. Il fallait à chaque fois que quelque chose change, que je trouve moi-même ma propre surprise. Donc, à chaque fois que j'organisais une scène, même si je reprenais le même scénario, il fallait que ce soit des personnes différentes ou un décor différent. Il fallait que quelque chose change.
Et c'est comme ça que surgit l'émotion érotique ?
Ah, pour moi, oui. Il faut qu'il y ait de la surprise.
Qu'est-ce que c'est l'érotisme pour vous ?
C'est l'intellect qui passe dans la génitalité. Parce que la génitalité, c'est vraiment très simple. Ah non, ça vous fait rire, mais enfin, je pense
vous
que c'est quand même
rire,
très
vous.
Simple. Et que l'érotisme, c'est ça. C'est quand tout d'un coup, l'intellect modifie ou met quelque chose de plus à l'intérieur de la génitalité.
Vous savez pourquoi je ris, en vrai ?
Vous allez me dire.
C'est grâce à ce naturel avec lequel vous parlez de tout ça, de désir, de plaisir, d'érotisme. Finalement, j'ai l'impression que la plus grande transgression, quand on vous entend, elle réside dans votre liberté de parole à 88 printemps.
Ah bah oui. Ah bah oui, ça c'est vrai.
Alors on va continuer à se libérer, tous les deux, ce matin, avec Serge Gainsbourg, tiens, L'eau à la bouche, 1960. Vous êtes sur France Inter avec Catherine Robe-Grillet, vous écoutez Boomerang, on est jeudi matin et on a, vous connaissez la chanson, l'eau à la bouche.
Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiante, je te sens captive. Je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte, de quoi tu peurs, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche, cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est un petit oiseau, en fait. Elle est haute comme trois pommes. Elle ferait pas de mal à une mouche, a priori, avec son petit chignon, ses petites lunettes, ses petits yeux. On est quelque part entre la fée marraine et sœur Emmanuelle. Le problème, c'est qu'on parle bien de la même Emmanuelle. C'est tout le problème de cette émission. Avec son turban blanc, veste noire, irrésistiblement élégante, Catherine Robbe-Grillet, invitée de Boomerang ce matin. Vous êtes née en 1930, Catherine. Dans quelle France est-ce que vous avez grandi?
Moi, j'avais 9 ans quand la guerre a été déclarée. On est allé, j'étais au couvent. Enfin, j'étais dans une institution religieuse. On s'est réfugié près de Paris, à Grand-Bourg. Bon, et puis on est parti en 40. L'institution religieuse, c'était Notre-Dame de Sion, où j'étais élevée. On a vu, j'étais avec mes petites sœurs, et on a vu arriver les Allemands. Vous savez, quand on est enfant, tout ça, c'est... C'est plutôt de la distraction, finalement.
Enfin, ça marque, quand même.
Ça marque, ah,
je
oui,
suppose,
bien sûr,
quand on
ça
a connu
bien
la
sûr
Seconde
ça
Guerre
marque.
Mondiale.
Mais vous savez, ce qui marque, c'est le fait qu'on avait froid, qu'on avait faim, que les rues étaient désertes, que de temps en temps, on croisait des Allemands. Pas beaucoup, parce que moi, j'allais entre ma maison, et qui était une rue de Rennes, et puis la rue Notre-Dame-des-Champs, où était mon institution religieuse. Mais j'étais pensionnaire, je sortais très peu. Et je me souviens qu'à certains moments, il n'y avait rien à manger. Rien. C'est-à-dire qu'on nous servait à midi ce qu'on appelait de la crémosine. La crémosine, c'était une espèce de bouillie d'avoine où il n'y avait pas de sucre, pas de lait. C'était vraiment mauvais. Et alors, on avait des engelures. Ça grattait d'ailleurs vers midi. On avait les ongles boudinés, rouges, et ça grattait terriblement. Et on a retrouvé une vie normale qu'en 47-48. Hein. Moi, tout le monde a... C'est peut-être pour ça que je suis petite. Hein. C'est que j'ai pas mangé à ma faim pendant mon adolescence.
Quel genre de petite fille est-ce que vous étiez, vous?
Alors,
conforme aux exigences de la société?
Alors, j'étais une très bonne élève.
Très bien.
Ah oui, 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 j'étais une très bonne élève. Et apprendre, ça me plaisait. Mais en même temps, j'étais appelée l'élève ricanante.
Allons donc.
Oui. Je n'aimais pas le préchi-préchat.
Ça n'a pas
Et je continuais à ne pas aimer le préchi-préchat.
Bah non, je vois bien.
Et alors, j'avais, paraît-il, mauvais esprit. Alors, si vous me demandez pourquoi, je ne saurais pas quoi vous répondre, mais j'avais, pour les religieuses, j'avais mauvais esprit.
Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette éducation, Catherine Robbe-Grillet, religieuse?
Religieuse, bah, je dois dire pas grand-chose.
Un goût pour les cérémonies, je me disais, les rituels.
Alors, effectivement, vous avez raison. Il en reste un certain goût de la para-religieux. À l'époque, il y avait des belles chasubles dorées, il y avait des cierges au moment de Pâques. Il y avait tout un apparat, avec l'encens, évidemment, qui me plaisait énormément. Sans compter la musique liturgique. Ça, je l'ai repris dans mes cérémoniales. Et je continue d'ailleurs à beaucoup aimer la musique sacrée.
Vous avez renversé un certain nombre de tabous. Sur la sexualité, évidemment. Ça dit quelque chose d'une certaine émancipation féminine, Catherine
Robbe-Grillet. Je me suis franchement émancipée très vite.
Vous dites ne jamais avoir eu de revendications féministes.
Non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai toujours été très libre. J'ai pas eu de revendications féministes pour moi. Parce que je me suis pas sentie contrainte.
Mais une revendication féministe, c'est une revendication politique.
Si vous voulez, par exemple.
Une revendication collective.
Ah bon, évidemment, moi je suis féministe.
Ah, vous l'êtes?
Bah oui, bien sûr, évidemment.
C'est la première fois que vous le dites, je crois.
Alors, entre autres, je suis féministe dans la mesure où je réclame que d'autres femmes ne me fassent pas la leçon, ne me disent pas ce que je dois faire.
Ça, c'est intéressant.
Je réclame vraiment la liberté pour les femmes. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des groupes de femmes qui sont illégitimes parce qu'elles ont fait des études et qui dictent aux autres femmes ce qu'elles doivent faire. Ça, je ne le supporte pas. Par exemple, une femme a le droit de choisir si elle veut travailler, mais si elle ne veut pas travailler, si elle veut rester avec ses enfants, elle a le droit de le faire et de ne pas être stigmatisée parce qu'elle préfère rester chez elle.
De quel œil est-ce que vous avez suivi toutes les revendications et les mouvements qui ont suivi l'affaire Weinstein. Catherine Robbe-Grillet, vous qui en janvier dernier aviez signé la tribune sur la liberté d'importuner, parue dans Le Monde.
Donc là, j'ai trouvé que ça allait trop loin. Oui. J'ai vraiment trouvé que ça allait trop loin. On accusait des hommes qui étaient destitués, qui étaient renvoyés de leur métier, sans même les écouter.
Mais pas vraiment, alors, Catherine Robbe-Grillet. On n'est pas non plus aux États-Unis. C'est pas comme ça que ça se passe.
Ah non. Mais alors, cette tribune a été écrite et signée il y a un an. Rappelez-vous, il y a un an, c'était quand même assez tendu tout ça.
Vous avez peut-être pu l'écrire, la tribune, non? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle a été écrite en 10 minutes, non?
Alors, moi je l'ai signée. Je n'étais pas là au moment de la rédaction.
Ah, c'est dommage, ouais.
Bon, en gros, ce que ça veut dire, c'est que il faut raison garder, quoi. Qu'on vous touche une cuisse, ça n'est tout de même pas comme si on vous violait. J'ai eu l'impression, si vous voulez, que les femmes devenaient...
Attendez, Catherine Robbe-Grillet, personne ne dit ça. Que tout le monde sait la différence entre toucher une cuisse et violer quelqu'un.
Non. À l'époque, on avait l'impression que une femme dont on avait touché la cuisse était traumatisée jusqu'à la fin de sa vie. Je vous assure que c'était cette impression-là qu'on avait il y a un an. Bon, maintenant peut-être que ça s'est calmé, hein. Ça, c'est très possible, mais c'était comme ça.
Entre nous, vous la signeriez de nouveau cette tribune là, vous ?
Oui, j'ai pas l'habitude de revenir sur ce que j'ai décidé. Par exemple, une fragilité. Je me suis fait pincer les fesses comme tout le monde dans le métro. Bon, alors.
Ça devait arriver.
Vous pouvez, alors.
Ça arrive dans l'émission.
Voilà. Et ma réaction a été la suivante. J'ai dit tout haut, ça n'est tout de même pas parce qu'on est serré, qu'il me faut me pincer les fesses. Et je l'ai dit vraiment très fort.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, le type est sorti à l'arrêt suivant. Et je ne me suis pas sentie traumatisée.
Pour terminer cette émission, Catherine Robbe-Grillet, je vous ai demandé de choisir un texte d'Alain Robbe-Grillet pour tenter de faire entendre sa voix, sa langue, qui ont tant compté dans le paysage littéraire français, sa liberté aussi. Je le lis, vous me l'avez demandé, et on en parle après. Quand nous étions tout petits, on nous y emmenait de temps à autre, ma sœur et moi, par le chemin de fer en miniature qu'on prenait à Brest et qui avait l'air d'un jouet, pour passer quelques jours dans une maisonnette en pierre d'autrefois, aux murs très épais, aux ouvertures étroites, sans aucun confort, situées en bordure de grève sur le chemin de ronde des douaniers, dont ne la séparait qu'un carré de jardin battu à marée haute par les embruns de mer. C'était la maison de Perrine, si du moins je ne confonds pas tout, une ancienne amie des deux enfants du brigadier, grand-mère Canu et marraine, qui avait passé toute leur jeunesse dans le village avec les petites paysannes et les filles des marins-pêcheurs, parlant surtout breton, allant le soir à la veillée chez l'un ou chez l'autre, pour y lire la vie des saints, puis écouter les traditionnelles histoires de naufrages, de revenants et d'âmes en détresse, dont elle retrouvait ensuite les gémissements dans la nuit sans étoiles, en rentrant chez elle, en sabots, par les sentiers sableux détrempés de pluie, où les frôlaient, mêlés aux rafales du vent d'ouest, la horde déchaînée des présences fantômes. Les petites lignes d'écume blanchâtre, les mouvements sournois de la mer entre les blocs géants de granit rose amoncelés, les entonnoirs creusés dans le sable au pied des roches par d'incessants remous presque invisibles, les plages trompeuses et les vaguelettes à la régularité faussement rassurante. Tout cet univers aquatique, aussi attirant que redoutable, c'était l'aliment favori de mes mauvais rêves. C'est un extrait du Miroir qui revient.
Mais c'est un très beau texte.
Somptueux.
Ah oui.
Pourquoi celui-là? C'est vous qui l'avez choisi?
Oui. Alors, on l'a choisi justement pour la beauté de la langue, parce que la Bretagne a toujours beaucoup compté pour Alain, et puis parce que il avait la réputation d'écrire une langue un peu, alambiquée. Et là, vraiment, on y est. On sent le soir, on sent les embruns de la mer, on sent les fantômes qui sont là.
Mais c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. C'est un texte sur ces présences fantômes.
Oui, il y a une présence. Il y a une présence de la scène très forte. On y est. On est dans la nuit. On chemine le long de la grève. On entend les vaguelettes comme ça dans la nuit. Vous trouvez pas? Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Alain avait un don pour que le monde est une présence forte. Et il disait souvent que quand il écrivait une scène, il la voyait. Il était dedans. Il la voyait Oui, c'est ça. C'était comme une hallucination.
Il me semble qu'on l'a senti, cette présence, ce matin. Merci infiniment, Catherine Robbe-Grillet, d'être venue faire un tour dans cette émission et d'avoir fait ce qu'on ne fait habituellement qu'avec Catherine Deneuve, à savoir un point Catherine. Je rappelle que votre dernier livre, Alain, ainsi que votre correspondance sont publiés chez Fayard. Cette année était le 10e anniversaire de la disparition d'Alain Robbe-Grillet, dont j'invite évidemment tous les auditeurs à lire ou à relire Les Gommes, La Jalousie ou encore Le Voyeur, à revoir Trans-Europe Express par exemple, ou l'année dernière à Marianne Bad d'Alain René, dont il avait écrit évidemment le scénario. Pour nous non plus, il n'est pas si absent, somme toute. Merci infiniment. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah. Yeah. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. Lover, don't you come down without a sword or a gun. For the gold and the silver you're searching is hidden out there underground. But there's a beast on the cloak, guarding against the foe. And the ghost from the river is watching. She won't let you get any close. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. Lover, don't make a sound. Bring your rifle around. When I say hallelujah, it's your cue to shoot at the head of the hound. Now take just what you need, baby. Any more won't fit your bed. Go as fast as your feet they will carry, for the greater chases be dead. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. American Dream, J.S. Ondara sur France Inter. Est-ce que c'est beau? Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, l'instant
Oui, c'est
M.
beau. Les médias aussi, c'est beau. Salut, Augustin. À demain.
À demain.